Europe 1, 14h-15h, Clap. Mathieu Charrier.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Clap, l'émission qui vous raconte le cinéma. Vous connaissez peut-être les frères Cohen, les frères Farrelly, les frères Darden. Eh bien aujourd'hui, on a décidé de s'intéresser aux frères Fuenkinos. D'un côté, David, romancier à succès, auteur notamment du Potentiel érotique de ma femme, des Souvenirs, de la Délicatesse ou du mystère Henri Pic, ces derniers ayant été adaptés au cinéma. De l'autre côté, justement, Stéphane Fuenkinos, directeur de casting. Ensemble, ils ont déjà réalisé Jalouse avec Karine Viard ou encore Les Fantasmes qui sort mercredi prochain. Film à sketch dans lequel ils explorent les fantasmes les plus étranges. Je vous raconte leur histoire dans un instant et ils seront nos invités. 14h30, les films de ma vie. Chaque semaine, un invité répond à notre questionnaire de Proust version cinéma. Aujourd'hui, c'est André Dussolier qui a accepté de se prêter au jeu. Alors par exemple, quel est son premier souvenir en salle ?
Premier souvenir au cinéma, j'étais dans un petit village qui s'appelle Cruzeil, en Haute-Savoie, c'est Les 400 coups de François Truffaut. J'étais très impressionné parce que franchement, le cinéma, je ne savais pas ce que c'était. Et tout d'un coup, de voir la vie de près, comme ça, sur un écran, qu'on nous montrait quelque chose qui n'était jamais raconté, dévoilé, expliqué, détaillé, surtout pour l'enfant que j'étais.
Les 400 coups de François Truffaut pour découvrir les autres souvenirs cinéma d'André Dussolier. Rendez-vous donc dans une demi-heure. Et puis juste après, comme chaque samedi, j'accueille mes collègues critiques pour débattre des films sortis mercredi dernier. Au programme aujourd'hui, Sentimental. Là aussi, il sera question de sexe, vous verrez. Nous débattrons également de Rouge, film engagé porté par Zita Enro, de Passion Simple avec Laetitia Doche et de Berlin Alexanderplatz. Voilà pour le programme de votre Clap qui commence donc maintenant avec notre récit consacré aux frères Fuenkinos.
Europe 1, le récit.
Au départ, rien ne prédestinait les frères Fuenkinos à atterrir dans le milieu du cinéma puisque leurs parents travaillaient dans l'aéronautique. En fait, c'est un accident qui va précipiter les choses. À 16 ans, David est hospitalisé pendant des mois, il manque même de mourir et pour passer le temps, il se met à lire des livres par dizaines. Sa décision est prise. S'il s'en sort, il fera désormais ce qu'il veut. Mais sa passion à l'époque, c'est la musique. Alors David Fuenkinos devient prof de guitare et son frère Stéphane, prof d'anglais. Écoutez-le en parler au micro d'Europe 1.
Ça a changé ma vie. Alors je lisais très très peu, uniquement les livres voilà que je devais lire pour l'école. J'étais pas du tout issu d'une famille littéraire et puis à 16 ans, effectivement, une très grave maladie, j'ai été opéré du cœur. J'ai passé des mois à l'hôpital et c'est quelque chose qui voilà, tous ceux qui ont été gravement malades, qui ont connu cette proximité avec la mort, la maladie, on en ressort complètement transfiguré. Et après, c'est vrai que je me suis mis à lire, à écrire, à faire des études de musique, à aimer la peinture, à avoir un rapport disons sensuel ou en tout cas plus artistique à la vie.
En parallèle, Stéphane Fuenkinos, lui, se lance dans le théâtre et s'inscrit au cours Florent, alors que David, le futur écrivain, vous me suivez, entre en fac de lettres et de musique à la Sorbonne. Et dès 2002, justement, à seulement 28 ans, David Fuenkinos sort son premier livre, remarqué, le titre « Inversion de l'idiotie, de l'influence de deux Polonais » chez Gallimard. Il obtient le prix François Mauriac et écrit quelques années plus tard « Le potentiel érotique de ma femme », livre qui se vend très bien, et sera même adapté au théâtre.
Elle se laissait aller, sans trop savoir encore le potentiel érotique qui somnolait en elle. Brigitte traque les moindres traces sur les vitres. Hector n'a jamais rien vu d'aussi érotique.
Ça te dérange pas? Si je passe un petit coup de pchit pour que le salon soit parfait?
Non mais t'es folle, on est chez moi, c'est à moi de le faire.
Non, laisse Brigitte laver les vitres.
Pendant ce temps-là, son frère, Stéphane, donc, se fait repérer par Jacques Doyon. Le réalisateur en est persuadé, il sera un grand directeur de casting. Et il ne s'est pas trompé, puisque Stéphane caste des acteurs pour des réalisateurs et des films prestigieux. Ozon, Téchiné, Robert Zemeckis, même Woody Allen fait appel à lui pour son film Midnight in Paris.
C'est incroyable! Regarde ça! Il n'y a pas une autre ville au monde comme celle-là!
Toi, tu es amoureux d'un fantasme.
Moi, je suis amoureux de toi.
Rentré hier soir?
Pas très tard. Je pense que je referai ce soir une de ces petites balades.
Où est-ce que Gil s'est encore enfui?
C'est son nouveau truc de traîner dans Paris.
Tu crois qu'il va où, Gil, tous les soirs?
Il marche et ça lui donne des idées.
Je l'ai fait suivre par un détective.
Qu'est-ce qui s'est passé?
Je ne sais pas. L'agence de détective dit que le détective a disparu.
Alors avec Stéphane qui a un pied dans le cinéma et David dont les livres se vendent comme des petits pains, c'est assez logiquement que Jacques Doyon pousse les deux frères à travailler ensemble. Début de la collaboration en 2005 avec un court-métrage, le titre « Une histoire de pied ». Judith et Pierre se préparent pour leur premier rendez-vous et ont un dilemme, quelles chaussures porter ?
Ah salut !
Oh, si tu savais comme je suis angoissé.
T'inquiète, tout se passera à merveille.
Bon alors, comment tu me trouves ?
C'est bien, hein, tonton un peu.
Ah ! Quoi, qu'est-ce que c'est ?
C'est quoi ça ?
Quoi ça ? C'est mes cheveux, ça.
Écoute, tu peux pas décemment te présenter à un premier rendez-vous avec ça au pied.
Mais j'ai eu mon bac et mon permis avec.
Si tu veux rester célibataire...
En parallèle, Stéphane écrit aussi des textes pour Sylvie Joly. Mais très vite, il se met à la réalisation de longs métrages. Avec son frère David, bien sûr. En 2009, les deux frères signent donc l'adaptation de La Délicatesse. Dès lors, David Fuenquinos devient un auteur incontournable. Le livre sera même vendu à plus de 800 000 exemplaires. L'histoire d'une jeune veuve qui reprend goût à la vie. C'est Audrey Tautou qui tient le rôle titre. David Fuenquinos.
Je dis jamais dans le livre qu'elle est blonde ou brune ou rousse, mais féminité suisse, les gens imaginent une grande blonde. Alors que non, il peut avoir des petites brunes. Et voilà, nous, on a tout de suite pensé à Audrey Tautou, on a rêvé d'Audrey Tautou. Pour moi, voilà, elle est l'incarnation de la féminité du livre et de la délicatesse.
La délicatesse qui connaîtra donc un succès public et critique. Le film sera même nommé au César et sortira dans une trentaine de pays. L'une des scènes les plus célèbres du film, c'est un baiser entre Audrey Tautou et François Damiens.
Elle est peut-être un peu obsessionnelle et hyperactive. Son mari est mort il y a 3 ans et depuis, mais c'est évident qu'elle se plonge dans le boulot. Il n'y a que ça pour elle.
Merci Chloé pour les présentations.
Je crois que j'aurais surtout besoin qu'on soit normal avec moi.
Bonjour. Je voulais vous voir pour le 114.
J'ai embrassé quelqu'un.
Quoi ? Mais qui ça ?
Je sais pas. Mais pour le 114, on verra plus tard. Avec Marcus ?
Audrey Tautou qui en parlait sur Europe 1.
Ça se prépare parce que finalement, ça a un côté un petit peu technique parce qu'il faut savoir combien de temps, comment. Oui. Voilà. Après, voilà, on se lance. Enfin, je veux dire, c'est pas très compliqué. Hein.
Oui. Et François Damiens, c'était plutôt bon client, donc...
Oui, il était... Oh non, mais comme c'est quelqu'un qui, comme moi, est quand même très pudique, ça reste, même si on fait semblant, c'est pas forcément, je dirais, très agréable, quoi.
Et entre-temps, David Fuenquinos sort Charlotte en 2017, sans doute son œuvre la plus acclamée, près de 400 000 exemplaires vendus. Le livre reçoit le prix Renaudot et le Goncourt des lycéens. David Fuenquinos devient un champion des ventes, alors qu'au départ, ce n'était pas gagné.
Oui, c'est une anecdote véritable. C'était pas mon premier roman, en plus, c'était mon 5e ou 6e roman. Je faisais une dédicace à la Fnac Place d'Italie. Il y avait une seule personne dans la salle et puis j'étais un peu gêné. On a hésité avec l'animateur à savoir si on allait annuler ou pas la rencontre littéraire parce que c'était un peu ridicule avec une seule personne. Et puis en plus, cette femme-là m'a dit au bout d'un moment, à vrai dire, je erre dans le magasin parce que j'ai oublié mes clés, j'attends que mon mari rentre. Alors voilà, avant les derniers succès, j'ai connu des moments. Mais moi, j'ai jamais pensé que je pouvais toucher le plus grand public pendant de nombreuses années, et c'est quelque chose qui, ça paraît un peu étrange de le dire, mais ne me gênait pas, ou en tout cas j'attendais pas spécialement mieux. Et c'est vrai que 3-4 ans après, quand j'ai fini Rencontre littéraire dans le Grand Opéra de Nancy, ouais, invité par, ouais, Françoise Rossineau, j'ai dédié la rencontre à cette femme dont je connaissais pas le nom, mais qui avait marqué un moment un peu pathétique du passé.
Depuis, les choses ont bien changé. D'autant qu'en 2017, les frères Fuenquinos réalisent leur second film avec une autre championne du box-office, Karine Viard. Le titre « Jalouse », l'histoire d'une mère jalouse de sa fille adolescente.
Alors, comment vous sentez-vous ?
Je comprends pas ce que j'ai. Tout le monde m'a dit à quel point ma fille était belle et merveilleuse.
C'est fou comme elle danse bien.
Les autres n'étaient pas terribles, hein, remarque.
J'ai des sautes d'humeur.
Au travail, il y a une espèce de petite conne arriviste.
Elle en fait des tonnes.
J'ai l'impression que le monde m'est devenu hostile. Tout le monde est dupe.
Pardon de vous couper, Madame Péchu. Je suis généraliste.
Oui, d'accord, mais bon, on se connaît depuis un petit moment, donc on peut quand même un petit peu se parler, non ?
Tu peux pas comprendre, toi, tout va bien. En plus, ta fille, elle est moche.
C'était très très bien écrit, le rôle était quand même juste un gâteau pour une actrice, c'est extraordinaire d'avoir ça à jouer. Et puis je me suis dit qu'avec Stéphane et David, ça allait, on allait bien travailler avec beaucoup d'amitié et voilà, je me sentais sereine, quoi.
Alors justement, comment les frères Fuenquinos travaillent-ils ensemble? Comment jonglent-ils entre les différents domaines, les différents sujets, le sexe, l'esclavage, le suicide et maintenant les fantasmes? Le film sort mercredi prochain. Pour en parler, ils seront avec nous dans un tout petit instant dans ce studio, David et Stéphane Fuenquinos. Mais puisqu'on évoquait tout à l'heure la délicatesse, dans le film, à un moment, résonne ce morceau, It's a Wonderful Life. Écoutez-le dans Clap, avant d'accueillir les frères Fuenquinos. On se retrouve pour la suite de Clap, votre émission cinéma. Tout l'été, on est là, en inédit, parce qu'il y a beaucoup de films qui sortent dans les salles, notamment le nouveau film des frères Fuenquinos, Les Fantasmes. Messieurs, bonjour.
Bonjour.
Bonjour Mathieu.
On vient parler de vous pendant 10-15 minutes, j'ai raconté un peu votre histoire, maintenant on va aller un petit peu plus loin, notamment sur ces fantasmes, juste en deux mots, qu'est-ce qui vous a pris de vous être dit on va aller prendre les pires fantasmes, enfin les pires ou les meilleurs, après chacun jugera, des gens, et on va aller les raconter, parce qu'il faut quand même dire, il y en a un, enfin une qui est excitée quand son mari pleure uniquement, il y en a un autre, il faut que sa femme soit vue par le plus grand nombre, il y en a deux autres, il faut qu'il y ait des morts dans, dans l'univers, enfin, c'est quand même des fantasmes un peu étranges.
Alors il y en a, vous avez raison, des étranges, un peu tordus sûrement, mais on a aussi des fantasmes plus classiques. Alors, c'est vrai que le film s'ouvre sur Denis Podalydès et Suzanne Clément, ça fait 20 ans qu'ils sont ensemble, usure du couple assez classique, et ils vont se mettre à jouer des rôles, voilà, pour pimenter leur vie quotidienne, et ça va déraper. Ce qui était important pour nous, c'était à la fois d'avoir voilà, des fantasmes un peu classiques, et puis le film à sketch, la comédie, nous permettait d'aller dans le burlesque et d'aller en tout cas dans des situations un peu extrêmes. On est d'accord.
Et comment vous choisissez les acteurs selon les fantasmes? Ça, je me tourne vers Stéphane qui était le directeur de casting.
Mais... Oui, mais alors vraiment, c'est un choix totalement en concertation avec mon frère. D'abord, il y a l'envie de retrouver des gens qu'on aime. Alors, c'est sûr que Karine, elle s'est imposée. De toute façon, si elle n'avait pas été dans le film, elle aurait fait, je pense, une révolution. Mais c'est vrai qu'on a imaginé aussi Jean-Paul, qui est très proche de David et qui est devenu quelqu'un aussi de très cher. On les a imaginés ensemble. Et après, c'est ça aussi, c'est le comme un déclencheur de se dire, ah voilà, si ces deux acteurs étaient ensemble, qu'est-ce qu'ils auraient comme fantasme? Bon, il y avait un biopic qu'on voulait faire, on en parlera après. Mais l'idée, c'est que c'est ça qui est inspirant. C'est aussi de trouver des comédiens qui n'ont jamais joué ensemble. Pourquoi? Parce que à la fois, on se surprend, nous, et eux, on les surprend. Et surtout, le premier jour de tournage et la première scène, quand ils se retrouvent au lit, comme Carole Bouquet et Monica Bellucci, qui s'étaient à peine vus dans la vie, C'est ça qui est fou, quoi.
Pourtant, on a l'impression qu'elles sont très amies. Quand on les voit dans le film, on a l'impression qu'elles ont fait ça 50 fois.
Et je pense qu'elles n'ont plus envie de se quitter. C'est ça qui est génial.
Mais c'est pareil pour Karine Viard et Jean-Paul Rouve. On a le sentiment qu'ils ont fait 10 films ensemble, qu'on les a toujours vus ensemble. Ils n'ont jamais tourné ensemble. Ils se sont croisés une fois sur un film de Michel Blanc. Et donc, on avait le sentiment que c'était évident. Ce couple était évident. Et d'ailleurs, eux, ils l'ont vécu un peu comme ça. Ils étaient au lit. Il faut imaginer qu'on a tourné en plus en plein Covid. Donc, on était tous masqués en équipe réduite et eux faisaient des galipettes devant nous. Et c'est vrai que c'était assez marrant. Et je pense que ça a donné aussi, ça a insufflé une envie de vivre, une envie de s'amuser, une envie d'être dans le libertinage.
Je vais vous poser une question qu'on vous a posée 50 fois, mais vous allez me faire une réponse différente. Comment on bosse quand on est entre frères? Parce que ça vous paraît logique et c'est sans doute très inné dans votre manière de réaliser. Il y en a un qui fait quelque chose, l'autre à côté, mais... Pour nous, on se dit déjà, travailler seul avec soi-même, c'est compliqué. Donc, travailler avec mon frère ou ma sœur, comment vous réalisez ensemble?
C'est d'abord, je pense que ça évolue. Donc, votre question, elle n'est pas si bête. Parce que c'est vrai qu'au fur et à mesure...
Ouais, moyen quand même.
Non, il y a de la complémentarité qui n'a jamais été évoquée. C'est aussi peut-être le fait de ne pas trop en parler et de se dire...
Vous n'avez pas défini les rôles.
Non, les rôles se partagent naturellement. Mais je crois qu'au fur et à mesure, j'ai l'impression que je me repose beaucoup plus sur lui qu'avant.
Mais parce qu'au départ, le cinéma, c'est plus vous que lui.
Oui.
Directeur de casting depuis longtemps, David, romancier.
Mais il s'avère être, je pense, beaucoup plus réalisateur que moi. Et quand je dis ça, c'est pas du tout... je pense que l'idée de la mise en scène est vraiment... Il me prend à bras le corps, quoi. Je le vois évoluer, je le vois grandir. Et c'est vrai que c'est pour ça que je dis que je me repose un peu plus sur lui. Moi, par habitude, je vais vers les acteurs. Mmh. Mais c'est aussi parce que je sais que je ferais pas de cinéma si c'était pas avec lui.
Mais au-delà d'être frère, il y a de plus en plus de duos de réalisateurs. Et c'est vrai que c'est si colossal de monter un film sur un plateau. C'est extrêmement confortable. C'est vrai que moi, je vais régler des choses sur les plans. Stéphane est tout le temps avec les comédiens. Ça donne une dynamique aussi d'attention pour chacun qui est très plaisante.
Il y a un duo de frères qui vous a inspiré, les frères Cohen, les frères Dardenne, les frères Larieux.
Nakash Toledano, mais pour les entrées surtout.
Et ils sont pas frères, mais c'est un duo.
Oui, voilà. C'est ça, ils sont presque frères. Ce qu'il faut dire aussi, je le racontais tout à l'heure, c'est qu'au départ, vous n'étiez pas vraiment destiné pour le cinéma, parce qu'on peut se dire aujourd'hui, ça a l'air assez évident que vous fassiez du cinéma tous les deux ensemble. À l'origine, vos parents n'étaient pas du tout dans le milieu. Comment ça s'est retrouvé à un moment? C'est les parcours de vie. C'était quand même, quand vous étiez petit dans votre chambre, vous disiez un jour, on fera un film ensemble. Comment vous avez...
Non, ça, c'est vraiment hyper improbable, tout ça. Ouais. Je sais que Stéphane, qui est plus âgé que moi, 6 ans de plus, ça se voit physiquement, a commencé vraiment à être cinéphile vers l'âge de 15-16 ans. Donc, m'a transmis le goût du cinéma. Mais après, de là à devenir réalisateur, c'est vrai que c'est totalement improbable. On a des parcours de vie qui font que Stéphane est devenu directeur de casting parce que c'était un cinéphile passionné, obsessionnel. Moi, je me suis mis à écrire de plus en plus et j'ai publié des romans. Et il s'est retrouvé qu'à un moment donné, on avait cette envie de faire du cinéma ensemble. Ça n'a pas été facile. C'est notre troisième film en 10 ans, mais ça fait presque 20 ans qu'on travaille ensemble. On a mis beaucoup de temps à monter La Délicatesse. Là aussi, ce dernier film, Les Fantasmes, on a beaucoup d'acteurs. On a mis du temps à pouvoir le concrétiser. Mais c'est toujours... on se retrouve toujours quand on a quelque chose à dire, quand on a quelque chose à partager, et surtout dans la comédie. Il faut vraiment avoir une forme de désir de raconter ces histoires.
Vous pourriez réaliser l'un sans l'autre?
Je ne crois pas. Enfin, moi, je crois pas.
J'ai essayé. C'est une catastrophe. Non, si c'est des formes courtes. Puis, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, plus ça avance, plus... les temps de tournage sont totalement rétrécis, les temps de préparation sont rétrécis. Donc c'est aussi un confort d'être avec quelqu'un. Et puis de manière totalement concrète et même intellectuelle, je pense que moi j'ai pas envie de faire un film sans lui. Enfin, je suis déjà comblé, comme je dis. J'ai rêvé du cinéma. Qu'est-ce que vous voulez faire de plus? Voilà, il y a toujours des choses à faire. Moi je fais des projets au théâtre, David. Écrit, on fait des projets parallèles, mais si on se retrouve pour faire du cinéma, c'est ensemble.
Non, et puis je pense qu'il y a des choses que moi je ne sais pas faire et inversement. Donc il y a une vraie, vraie complémentarité.
Vraiment.
Ah ouais, non, mais exprès. Non, mais c'est surtout que...
Bah, mon frère, par exemple, au niveau de la cantine, des choses comme ça...
Ah, j'aime très bien la cantine.
Il choisit quand même bien, c'est vrai. Hein.
C'est vrai, c'est vraiment... C'est mon truc, la cantine.
Et comment vous débutez chacun des projets? Parce que là, c'est un scénario original, c'est pas adapté d'un livre comme La Délicatesse. Mmh. Est-ce que vous vous dites... Là, ça part vraiment de l'idée de raconter des fantasmes. Est-ce que c'est l'idée de faire des duos de comédiens, comme vous disiez tout à l'heure, et de vous amuser avec ça? Voilà, comment l'idée de départ, parfois on se dit c'est une inspiration de la société, de la rue. Là, comment ça vient?
Alors, le point de départ, c'est un autre film. C'est un film australien, mais après qu'on n'a pas adapté, puisque pratiquement tout est... Le scénario est pratiquement original, mais on a adoré l'idée de travailler sur les fantasmes. Parce que les fantasmes, c'est à la fois un sujet de comédie absolument génial, parce que c'est un révélateur de notre intimité, de nos frustrations, de tout ce qu'on doit dire, qu'on ne doit pas dire. Et c'est vrai que ça crée des situations incroyables. Le fantasme qu'on a envie de partager avec son partenaire, le fantasme qu'on fait subir à son partenaire, le fantasme qu'on subit soi-même, parce que voilà, parfois on est excité par des choses et on préférait que ça soit autrement. Donc finalement, toutes ces situations humaines liées à la sexualité, au désir, ça avait un potentiel narratif très très fort. Et puis sous la forme de sketch, ça permettait d'explorer beaucoup de situations. Beaucoup de générations, on a un sketch avec des jeunes, on a un sketch avec voilà des femmes plus âgées. Voilà, pour nous ça permettait de faire une radiographie du désir.
Vous auriez presque pu le faire en série.
Mais pourquoi pas?
Parce que là, il y a tellement de fantasmes, on verra.
Mais surtout là, on a fait une liste de 250 fantasmes, on peut faire d'autres, on peut décliner, ça c'est certain.
Et notamment parce que dans votre liste que vous distribuez aux journalistes avec beaucoup de malice
qui sera dans tous les cinémas.
Bah, ça vous donnera des idées, j'espère.
Ça, j'en doute pas, mais il y a surtout, j'ai découvert par exemple qu'il y a des gens qui sont excités par l'idée de la vaccination. Donc c'est d'actualité
pour le coup.
Si on veut relancer la vaccination,
on va dire ça à Véran, les vaccinophiles, bien sûr.
Ça peut aider.
Mais c'est vrai que toutes les projections qu'on fait, les gens nous racontent leurs fantasmes. Ça libère une parole, ça donne aussi, on espère, des idées. Voilà,
pour et alors, c'est quoi le plus incongru qu'on vous a...
Et alors, vous, Mathieu,
c'est moi qui vous interroge, je vous rappelle. Le plus incongru qu'on vous a raconté en avant-première?
Alors, on va pas vous le dire. Hein.
Non.
Mais c'est vrai qu'on a quelques petits témoignages, on a de quoi faire un nouveau film. Là, c'est certain.
La suite? Vous avez déjà l'idée du prochain? Vous avez...
Non, non.
Alors là,
non,
ils se regardent, parce que comme voilà. On a la radio, ils se regardent en se disant, est-ce qu'on a le droit de raconter déjà
notre prochaine? Ah non, non.
En vrai, on
pas du tout, parce qu'on est en train de parler justement de continuer à travailler sur les fantasmes, mais c'est vraiment pas du tout actuellement acté. Non, non, pour l'instant, on prend toujours le temps de réfléchir. On a chacun nos projets respectifs, donc aussi on se repose un peu l'un de l'autre, et puis on se nourrit, on va chercher de quoi créer le prochain film. Mais non, pas d'idée. D'ailleurs, donnez-nous des idées.
Mais ouais, on est prêts.
Voilà, hein, Europe 1, voilà, vous, les auditeurs.
On pourrait faire un film sur Europe 1, par exemple.
C'est certain.
C'est sûr.
Il y a des choses à raconter dans le milieu de la radio aussi.
Jean-Paul Roux va jouer Lucien Maurice.
C'est vrai. Pour terminer, vous, c'est lequel le sketch que vous préférez dans votre propre film?
Ah, ce qu'on préfère.
C'est dur.
Moi, je pense que c'est difficile parce que je crois que tous, voilà, un film à sketch, c'est parfois chacun a ses préférences. Je vais pas dire ça par rapport aux autres acteurs parce qu'on les aime tous.
C'est pas une question d'acteur.
Mais je pense que le premier avec Denis Podalydès, ouais. Un acteur qui dérape, et le dernier, je pense qu'avec Karine Viard et Jean-Paul Rouve, le dernier est assez marrant.
J'ai une petite tendresse pour la sorophilie.
Ah ouais.
Peut-être parce que.
Alors, faut expliquer, c'est qu'on tombe systématiquement amoureux de la sœur de sa compagne.
Voilà, donc là, c'est Ramzy.
Embêtant.
C'est Ramzy.
Voilà, et c'est Ramzy entre Alice Taglioni et Joséphine Demeaux. Mais peut-être que c'est aussi le fait que le personnage de Ramzy, qui est vraiment joue pour le coup très sincèrement l'amour de manière très très difficile, qui vit quelque chose de difficile, ouais, je sais pas, il me touche beaucoup.
Messieurs, merci. David, Stéphane Fuenkinos, j'espère que. Nos auditeurs y voient plus clair sur votre parcours, sur votre cinéma, et qu'ils iront donc découvrir en salle mercredi prochain Les Fantasmes. Alors, je ne veux pas refaire tout le casting, mais on a parlé d'Alice Taglioni, de Ramzy Bedia, de Jean-Paul Rouve, de Karine Viard, de
Monica Bellucci,
Carole Bouquet, enfin voilà.
William Lebguil, Joséphine Jappy, Céline Salet, Nicolas Bedos, Suzanne Clément.
Ouais.
Bah, on les connaît finalement, on a fait le film. Hein.
Vous les avez appris pour ne pas en oublier. Merci beaucoup en tout cas d'être venu dans
Clap. Merci à vous.
Merci.
Europe 1.
Vous êtes toujours à l'écoute de Clap, l'émission qui vous raconte le cinéma, et j'accueille maintenant André Dussolier. Bonjour.
Bonjour.
Et merci d'être avec nous pour une double actualité, puisqu'il y a le film Attention au départ qui est sorti il y a quelques jours maintenant, Et dans quelques jours, on vous retrouve pour Boîte Noire. C'est la rentrée, c'est du Solier, c'est un peu le slogan.
Parce qu'il y a tellement de films qui doivent sortir.
Mais voilà, Boîte Noire, où vous jouez un enquêteur du fameux BEA dont on n'entend parler que quand il y a des crashs aériens. Et qui va être chargé justement, avec l'aide d'un jeune rebelle qui s'appelle Pierre Ninet, d'enquêter sur la disparition d'un avion.
Oui, c'est ça, sur le bureau d'enquête et d'analyse. C'est toujours fascinant. On entend toujours au moment des boîtes noires, quand il y a un crash d'avion, en effet, que ces boîtes noires, elles sont recueillies par le BEA et qu'elles sont analysées par des spécialistes, des ingénieurs. Et donc, en effet, c'est sur une bande-son comme ça qu'on essaie de reconstituer ce qui a pu se passer à la fois dans le cockpit, à travers des conversations entre pilotes, et puis aussi... C'est toute une enquête grâce à des éléments sonores que les gens essayent de faire pour savoir ce qui s'est passé.
Crash dans les Alpes, un Atrian 800 qui reliait Dubaï à Paris, au moins 300 passagers.
T'as pu avoir accès aux données à Cars et à la trajectoire ?
Ouais, l'appareil a piqué rapidement, ça a été très brutal.
Des experts du BEA ont été dépêchés sur les lieux de l'accident pour tenter de localiser les boîtes noires.
Mathieu, j'ai besoin de connaître l'enchaînement exact des événements.
C'est bon, c'est exploitable.
J'ai des doutes sur le crash. Il y a un problème avec la boîte noire.
Et ça donne un polar, je le dis, haletant.
Haletant, oui.
Est-ce que vous êtes prêt pour notre questionnaire?
Je suis prêt.
Allez, on y va. Votre premier souvenir de cinéma?
Premier souvenir de cinéma, j'étais dans un petit village qui s'appelle Cruseille, en Haute-Savoie. C'est Les 400 coups de François Truffaut. J'étais très impressionné parce que franchement, le cinéma, je ne savais pas ce que c'était. Et tout d'un coup, de voir la vie de près comme ça sur un écran, où tout avait. C'est comme la... Vraiment, je me souviens. En plus, je suis allé voir ce film avec mes parents. C'est un film qui avait eu un prix de l'Office catholique. Enfin, bon, c'était tout à fait rassurant pour les parents que j'avais, etc. Et puis tout d'un coup, on voit la vie intime d'un couple et des choses qu'on ne dévoilait pas à la maison, hein, donc dans la réalité. Donc, c'est toujours ça aussi qui m'a fasciné à travers le théâtre, l'épisode de théâtre ou les films que j'ai pu voir, c'est tout d'un coup qu'on nous montrait quelque chose qui n'était jamais raconté, dévoilé, expliqué, détaillé, surtout pour l'enfant que j'étais.
Oh, c'est le bouquet.
Mais il est allé au lieu de crier.
Oh.
Puis au lieu de crier, va chercher de l'eau.
Oh. Oh, bougre d'âne, ça suffit comme ça. Mais qu'est-ce qui t'a pris, bon sang, qu'est-ce qui t'a pris? L'idée d'allumer une bougie là-dedans?
C'est pour Balzac, pas.
Balzac. Non, mais dis, tu m'as pas regardé, tu m'as pas regardé.
C'est pour la compo de François.
Oh, je comprends, laisse-le. Il m'a promis quelque chose.
Quoi? Toucher la prime d'incendie pour toute la baraque? Mais avec une bougie, tu y arriveras jamais, mon bonhomme. Tiens, tu veux mon briquet?
Dis, c'est pas ridicule.
Aussi longtemps que tu seras noué et logé ici, tu feras ce qu'on te dira.
Oh, oh, vous ne savez pas ce qu'on va faire pour changer d'atmosphère, hein? On va passer la soirée au Gaumont Palace tous les trois.
Ah, très bien, parfait. Excellente méthode d'éducation.
Votre meilleur souvenir en salle?
Mon meilleur souvenir en salle, je sais pas, c'est West Side Story peut-être, c'est aussi bête que ça parce que j'adore les comédies musicales et que vraiment là il y avait de quoi se réjouir à la fois à travers l'histoire et à travers la musique.
I like to be in America, okay by me in America, everything free in America, for a small fee in America.
I like the city of San Juan.
I know a boat you can get on.
Hundreds of flowers in full bloom.
Hundreds of people in each room.
Automobile in America. Chromium steel in America. Wire for free in America. Very big deal in America.
Pareil, vous. Regardez, on attend une nouvelle version bientôt de Steven Spielberg.
Ah oui, j'ai vu ça. Je pense que... Je ne sais pas si elle va passer au festival.
Je crois que c'est a priori plutôt pour Noël, mais...
Ah, d'accord.
Et vous avez hâte de...
Oui, vraiment. Oui, j'ai envie de voir ça. Et puis, oui, à chaque fois... enfin, bon, il y en a d'autres, hein, films qui m'ont marqué comme ça en salle. Je me souviens aussi d'un film qui s'appelle « Quand passent les cigognes ». Ça remonte à loin. Il avait été primé au Festival de Cannes. C'était un film russe. Et c'était tellement bouleversant, mais je m'étais vraiment identifié à l'histoire de ce héros mort dans une histoire d'amour déchirante où le héros mourait à la guerre. Et voilà. Et après, bon, enfin bref, cette histoire, c'est drôle. C'est des films que j'ai vus il y a longtemps, mais que je reverrai bien avec plaisir pour revisiter un peu mes émotions.
Votre pire souvenir en salle?
Mon pire souvenir, alors ça doit être sans doute un film qui dure très longtemps et qui est très ennuyeux, dont je connais pas, j'arrive pas à démêler l'objectif ou l'enjeu. Mais voyez, ça, c'est je vais reprendre la formule d'Alphonse Allais que j'aime bien. J'ai une mémoire admirable, j'oublie tout. Donc quand il y a quelque chose qui me pèse, ça s'évacue, je me souviens plus du titre.
Votre séance de cinéma la plus dingue?
Ma séance de cinéma la plus dingue? Ah, bah ça doit être une séance, je sais pas. Ah, oui, si. Alors là, vous allez être surpris. Ah, ça, parce que ça n'existe plus et ça avait été initié par la SNCF. Je sais que la SNCF essaie de se renouveler là maintenant et de mettre des... Moi, j'ai connu le cinéma dans un wagon de la SNCF, sur la ligne que je faisais souvent entre Annecy et Paris. Et à un moment donné, la SNCF a eu cette bonne idée de faire une salle de cinéma à l'intérieur d'un wagon. Et donc là, j'ai vu un film, donc c'était vraiment le dernier wagon du train, donc il y a eu une projection d'un film, je ne me souviens plus du titre, ce qui était important, c'est ce qui passait dans la salle, parce que je me suis retrouvé assis à côté d'une femme, voilà, et c'était comme un jeune homme au cinéma, et voilà, vraiment là j'ai vécu des... C'était incroyable de voyager, de savoir que j'allais jusqu'à Paris, mais que dans ce voyage-là, il y avait autant à voir sur l'écran qu'à ressentir dans la salle.
Si la SNCF nous écoute, il faudrait renouveler ça parce que
bah oui, mais,
c'est une bonne idée.
Ils ont abandonné l'idée, mais bon, voilà, c'est peut-être pas rentable.
Le film dans lequel vous aimeriez vivre, André Dussolier?
C'est vrai, on a toujours envie de passer l'écran comme Woody Allen, mais sans doute des films d'aventure, quoi, des films. Allez, un truc qui est absolument où on peut être un héros, vous voyez, vraiment, c'est genre Runaway Train, c'est-à-dire par exemple avec comment il s'appelle, John Voight, et c'était incroyable, c'était un train comme ça qui était, quand j'y pense, je me suis retrouvé dans une situation semblable dans un film qui s'appelle À fond avec José Garcia.
Oui, dans une voiture.
Autres, voilà, dans une voiture dont il n'y avait plus le
régulateur, vous ne pouvez plus s'arrêter, vous étiez sur l'autoroute.
Voilà, et le Runaway Train, c'est le même principe, c'est le train qu'on ne peut plus arrêter et qui va à fond, et donc là vraiment... un homme devant une machine pareille, il est démuni et on peut que compatir au destin tragique qui l'attend. Et bah non, l'homme devient héroïque et va sauver tout le monde.
Fais pas ça, Billy. Tu joues ta peau et tu sais que tu vas la perdre. Appuie sur le bouton. On est sur une voie sans issue. On va s'écraser dans 5 minutes.
Ah, on va passer 5 minutes agréables ensemble. Tu te prends pour un héros, hein? Quel con. Tu n'es que de la merde. Ouais, tous les deux de la merde.
Le film que vous avez le plus vu?
Ah oui, ça arrive, c'est un oui qu'on voit et revoit. Ben, je crois bien que c'est... Je vais encore parler d'une comédie musicale, mais Singing in the Rain, je pense que j'ai dû le voir quand même pas mal de fois.
I'm singing in the rain, just singing in the rain. What a glorious feel, and I'm happy again. I'm laughing at clouds, I'm singing and dancing in the rain.
Toujours ce goût pour les comédies musicales.
Comédies musicales, la joie de vivre, l'invention, les Américains, rien ne les arrête quoi, dans leur façon d'inventer. J'adore ça, quoi, cet esprit-là d'invention continuelle. Elsa Poppin, par exemple, c'est un film que j'aimerais bien voir et revoir et que j'ai vu quand même 2 fois, mais voilà. Et, voilà.
Quel est le film qui vous fait le plus rire?
Je pense que c'est les Marx Brothers, ou bien ça peut être les premières émotions, les Charlie Chaplin aussi, ça peut être quoi. Alors je remonte loin dans l'histoire, mais ça peut être aussi des films anglais, Un poisson nommé Wanda, des choses comme ça.
Mais qu'est-ce que vous foutez ici?
Je pourrais vous retourner la même question.
Mais enfin, qui êtes-vous?
Plaît-il?
Veuillez vous rhabiller.
Veuillez sortir immédiatement de cette maison.
Comment?
Vous vous trompez d'adresse. Cet appartement appartient à Patrick Balfour, qui est à Hong Kong et qui m'a prêté ses clés. Alors sortez et tout de suite.
Nous avons loué l'appartement à son agence la semaine dernière.
Seriez-vous Archie Leach?
Plaît-il?
Vous avez acheté notre maison de Lissenden Gardens.
Mais quel coïncident. Quelle joie de vous revoir.
Quel est le film, André Dussolier, que vous conseilleriez à votre meilleur ami?
Zelig. Comme ça, parce que vous connaissez la formule. Un ami, c'est quelqu'un qui vous connaît bien et qui vous aime quand même. J'aime bien le quand même. Et donc, quand il aura vu Zelig, il comprendra qu'il devra s'adapter à tout, etc., pour être l'ami idéal.
Parce que c'est quoi Zelig ?
Ah ben, Zelig, c'est un film de Woody Allen et qui est un type qui s'adapte à tous les gens qu'il rencontre. On a tous cette espèce de propension à vouloir plaire. Et donc, l'envie de plaire, quelquefois, nous emmène très loin et à épouser carrément les envies de l'autre, quoi, presque.
Et le film que vous conseilleriez à votre pire ennemi ?
Bah, Zelig aussi. Zelig, ça va, parce que là, je n'aime pas du tout qu'on agisse comme ça avec moi et donc qu'on je me perde, que la vérité m'échappe. Voilà, on revient, c'est bravo hein, pour l'interview, parce qu'on revient à Ian Gosselin et la recherche de la vérité, puisque c'est quand même ça qui me fascine, m'attire et que je trouve bien supérieur à toutes les opérations de séduction.
Et surtout dans le film Boîte Noire, la recherche de la vérité presque coûte que coûte, et qui t'a laissé une partie de sa carrière, voire une partie de sa vie.
Ben oui, parce que la recherche de la vérité peut nous entraîner toujours aux confins de la mort, quoi, certaines fois, dans tous les domaines. Voilà, politique, journalistique, et même aéronautique, comme c'est le cas ici.
Et pour terminer, quelle est la bande originale qui a le plus marqué votre vie ?
La bande originale qui a le plus marqué ma vie, mais je sais pas, je réécoutais un film dans lequel j'ai joué et où il y avait où Claude Lelouch, c'était vraiment avec Francis Lay, s'était amusé à faire une bande musicale qui racontait par la musique vraiment, ça s'appelle Toute une vie, c'était avec Marc Keller, Charles Denner, Gilbert Bécaud, et je regardais ce film pour des raisons bien précises, il y a pas si longtemps que ça, je regardais et donc du coup je voyais un peu la bande son, tout ce qu'elle peut apporter, quoi, un film et tout l'enrichissement, et c'est comme ça que je le voyais et que je l'appréciais encore par le biais de la musique.
Thank you.
Merci beaucoup André Dussollier.
Ah ben merci.
D'avoir joué le jeu de ce questionnaire Les films de ma vie. Et on va donc au cinéma vous voir dès maintenant dans Attention au départ, ça c'est plus une comédie, ouais. Et dans quelques jours dans Boîte Noire, on est plus dans la dimension polar.
Oui, exact.
Merci beaucoup en tout cas.
Merci beaucoup.
Et nous on se retrouve dans un instant pour la suite de votre émission cinéma, le temps d'accueillir mes collègues critiques et on va débattre justement des films sortis en salle mercredi dernier.
Clap. Mathieu Charrier fait son cinéma sur Europe 1.
On se retrouve, comme chaque samedi à cette heure-là, pour débattre des films sortis en salle mercredi dernier dans Clap, avec aujourd'hui autour de la table Thierry Chaise de Première et Fabrice Leclerc de Paris Match. Bonjour à tous les deux.
Bonjour. Bonjour.
Et comme chaque samedi, je rappelle que vous allez acheter ces magazines avant d'aller vous poser sur la plage ou au bord de la piscine ou ailleurs. Après tout, votre vie privée ne me concerne pas. Mais donc aujourd'hui, on va débattre du film Rouge, de Sentimental, on parlera aussi de Passion Simple et on terminera par Berlin. Alexanderplatz. Mais donc, Rouge, je voulais commencer par ce film parce que, il faut l'avouer, on l'a vu il y a, j'allais dire, un petit moment, un long moment, de Farid Bentoumi, porté notamment par Zita Enro, mais il m'est bien resté en tête. On en débat dans un instant.
Merci pour le poste.
Non, c'est à votre père qu'il faut dire merci.
Attends, ça fait 15 ans que t'as pas vu le médecin du travail, mais c'est pas possible ça.
Si l'usine pollue, je pensais pas qu'on a le droit de savoir.
Il y a quoi là qui sort des tuyaux là de l'usine ?
Un cancer aussi rapide à 29 ans, c'est pas normal.
Répondez simplement, elle pollue ou pas ?
Écoutez, ça fait 29 ans que je bosse chez Arcalu. Ma fille ici présente vient d'y être embauchée. Vous pensez vraiment que si j'avais le moindre doute d'un danger venant de chez nous, j'aurais laissé faire ?
Pourquoi tu t'occupes toujours de ce qui te regarde pas ?
Je sais pas, je reste là, je croise les bras. J'attends que vous soyez tous morts.
On sent la tension hein. Dès la bande-annonce, Zita Enro qui joue donc Nour, jeune femme qui vient d'être embauchée comme infirmière du travail dans l'usine chimique où bosse son papa depuis toujours, c'est d'ailleurs le délégué syndical, vous savez, un pivot de la boîte très respecté, même si certains commencent à lui chercher un petit peu des noises, sauf que Nour va être en contact avec une journaliste qui s'intéresse à la façon dont cette usine chimique gère ses déchets, cette journaliste est jouée par Céline Salette, et Nour va découvrir que l'usine en fait empoisonne littéralement ceux qui y travaillent, il faut dire ce qu'il est. Les dossiers médicaux sont bidouillés, mais ils n'ont pas trop le choix, évidemment, c'est le principal bassin d'emploi de la région. Nour va décider de se battre, quitte évidemment à discréditer son père, qui est un peu dans toutes ses combines pour préserver l'emploi. C'est un film, je trouve, très dans l'air du temps, notamment sur toute la question de ces lanceurs d'alerte. Fabrice Leclerc, Rouge.
C'est un film très dans l'air du temps, ça je suis tout à fait d'accord. On parle d'écologie, on parle de syndicalisme, on parle de banlieue, on parle de familles d'immigrés de deuxième, troisième génération. Ça inclut beaucoup de choses et là-dedans c'est assez intéressant. Après moi je trouve que le film est assez manichéen dans le sens où la fille de son père va se...
Ça, c'est une certitude, hein. La fille de son père...
Va se confronter à l'image paternelle, parce que voilà, elle n'est pas d'accord. La journaliste, Céline Salette, qui a un talent énorme, et je m'excuse, mais les rôles de journaliste au cinéma, faut, je sais pas, faut peut-être les faire jouer par des journalistes, parce que...
Ah, on c'est une candidature.
Pas du tout. On est dans la caricature, oui, quand même, je trouve. Et le film est intéressant, parce que le film amène plein de choses. Le film ne me convainc pas totalement, parce que j'ai l'impression d'avoir vu ça. J'ai l'impression d'un très beau téléfilm.
Vous êtes dur.
Mais c'est pas péjoratif, dans ma bouche. Je suis un des rares à dire que moi, les téléfilms, et on voit de très belles choses à la télé... Je ne vois pas vraiment la grandeur, je ne vois pas le... Voilà, ça a été sélectionné en Label Cannes 2020, j'ai un peu de mal à comprendre, mais bon.
Thierry Chaise Rouge.
Moi, j'ai vraiment bien aimé. Ah. Je trouve que... Alors c'est, non, mais quand les Américains font
sortir,
ça...
Je peux sortir, si vous voulez.
Quand les Américains font ça, on trouve ça génial. Les journalistes sont magnifiquement interprétés. alors on voit Spotlight, on dit, oh, on n'a jamais vu des gens aussi bien jouer les journalistes. Bon, ils ne jouent pas mieux ou plus mal, que pour moi, c'est une salette. Ils jouent exactement la même chose.
Vous avez déjà vu un journaliste comme ça qui est dans une conférence de presse qui commence à faire une... Non.
Sauf quand c'est en anglais.
Moi,
j'ai marché.
On ne va pas débattre des journalistes.
J'ai aimé, c'est vraiment voilà, le mélange de ces films-là, plutôt américains, dans Ressources humaines de Laurent Conté. Je trouve que ça tient par l'interprétation aussi, que Zita Enro, Saïd Bouajila, c'est vraiment un beau duo. C'est un film où on attend en effet chaque chose, mais qui, je trouve, est amené sans trop que ce soit lacrymal, qui pose des questions. Et là, souvent, les situations qui sont décrites là, sont dans la vie aussi assez manichéennes. Et je pense que s'il n'y a pas ce côté-là, ça manquerait de réalisme. Et donc, le film est un peu piégé par ce qu'il représente, mais du coup, en le représentant bien, moi, ça ne me gêne pas. Une fois encore, quand c'est interprété comme ça, en tous les cas, pour Zita Enro et Samy Bouajila, moi, je marche.
Voilà. Et moi, je suis du côté de Thierry. Allez donc voir Rouge de Farid Bentoumi. Non, mais là encore, on est voilà, l'été et c'est un film avec du sens qu'on peut aller voir en famille, entre copains, avec ses enfants et tout le monde y trouvera son compte. Et ça, des films qui ouvrent le débat, qui ouvrent la discussion Et c'est intéressant.
Et c'est un des nombreux films français qui doit sortir depuis plus d'un an,
qui ont longtemps
attendu, et c'est très bien qu'il puisse sortir.
On parle maintenant d'un autre film, on va changer d'ambiance, ça s'appelle Sentimental, et c'est un film, cette fois, espagnol.
Si querías invitar a los vecinos, igual me lo podrías haber comentado, ¿no te parece?
No, no me parece, ¿sabes por qué?
¿Por qué, cariño?
Rien que cet accent, on est en vacances, messieurs, avec les acteurs et actrices du film Sentimental. Alors, on est dans le huis clos d'un appartement où vivent Julio et Anna, bel appartement d'ailleurs, beau couple, mais on sent bien que la passion s'est un petit peu essoufflée. Et un soir, Anna invite les voisins du dessus à dîner, sans en avertir Julio d'ailleurs. Il faut dire qu'il ne les aime pas beaucoup parce que régulièrement, il les entend pendant leurs ébats amoureux. La soirée va prendre un tour encore plus étonnant lorsque ses voisins vont commencer à leur raconter leurs mœurs. J'en dis pas plus, film que j'ai trouvé frais, drôle, une assez belle surprise. Oui. Fabrice Leclerc.
Et ben pareil. Ah, tout ben pareil, voilà. Alors, je ne vais pas faire une comparaison, mais c'est un peu de l'Almodovar grande consommation. On n'est pas au niveau d'un Almodovar, mais on est dans la thématique de la liberté de parole et qu'un couple voilà, qui s'ennuie un peu face à un couple qui a des mœurs un peu plus libérées, mais encore, hein, il faut toujours se poser la question. C'est vrai que la confrontation est drôle, il y a des scènes très drôles, c'est adapté d'une pièce du metteur en scène, c'est très théâtral. Là, pour le coup, le cinéma n'existe quasiment
oui,
pas.
Oui, c'est vrai. Mais
voilà, il y a de la vanne, il y a de la diatribe, il y a de la réplique. Ça se regarde, c'est assez... Moi, j'ai beaucoup aimé, oui. J'ai vraiment beaucoup aimé.
Bon, Thierry, je sais déjà que vous allez dire « Ce n'est pas du cinéma, puisque vous m'avez dit « Ah !» !»
Ah, mais c'est bien, parce que je ne savais pas qu'on pouvait voir des pièces de théâtre, une captation de pièces de théâtre, en tous les cas, et pour une captation de pièces de théâtre...
Le prénom était un très bon film, en France.
Ah, mais c'était un petit peu mieux mis en scène, quand même, non ?
Un peu mieux, on est d'accord.
Un peu mieux, non ?
Thierry, vous êtes très bien joué.
Mais l'histoire est marrante.
L'histoire est marrante, c'est un court métrage, quoi.
C'est la surenchère.
Oui. Mais comme c'est quand même toujours filmé champ contre champ, il y a un côté hypnotique dans tout ça.
C'est assez intéressant.
Vous allez nous ressortir votre sieste.
Vraiment, je trouve ça bien joué. Le reste, je suis resté complètement étranger à ce qui se passe.
Effectivement, c'est pas le film le plus mis en scène. Et oui, c'est du théâtre filmé. Mais moi, j'ai trouvé l'histoire. C'est film du toujours plus. Donc, on commence par proposer un verre, puis plus.
C'est le jeu. Ça m'a fait penser à des choses comme ça, des films français. Moi, vraiment, je reste. Enfin, ces fameux films sociétal, entre guillemets.
Mais vous n'avez pas senti comme un air de Movida vous prendre pendant la projection du film ?
Non, sans doute. Mais je devais être enrhumé.
Allez, Sentimental. Faites-vous votre avis. Moi, je dis que si vous voulez passer une soirée légère. En couple, c'est tout de même assez sympathique. On reste dans une histoire de mœurs, si je puis dire, avec Passion simple, de Daniel Arbit, portée notamment par Laetitia Doche.
À partir du mois de septembre de l'année dernière, je n'ai rien fait d'autre qu'attendre un homme qui me téléphone, qui vient de chez moi.
Messagerie Orange, bonjour. La personne que vous essayez de joindre n'est pas disponible.
Il est marié, il va retourner dans sa Russie.
Et rythmer ma vie, j'ai mesuré le temps en fonction de lui. Je suis même allée à Moscou pour quelques heures, pour sentir l'air qu'il respire.
C'était bien.
Ouais. Sans qu'il le sache, cet homme m'a reliée davantage au monde.
Voilà. On n'a presque pas envie de parler sur cette petite et jolie musique. Alors, le résumé va être vite fait. C'est l'histoire d'une passion amoureuse au sens strict du terme, adaptée du roman du même nom d'Annie Arnaud. Hélène tombe amoureuse d'Alexandre et l'attend, nuit et jour. Un appel, un message, quelques minutes ensemble, quitte d'ailleurs à délaisser un petit peu son enfant. C'est peut-être un poil répétitif, mais, je trouve qu'il reste quand même quelque chose de ce film plusieurs mois après l'avoir vu, Thierry Chaise.
Moi, j'ai beaucoup aimé.
Ah, vous voyez ?
Or, c'était pour moi vraiment un livre inadaptable, pour ces raisons-là, c'est une femme qui attend, c'est l'histoire, c'est fait partie de ces romans où les écrivains et écrivaines racontent leur vie. Elle a eu cette aventure, Annie Arnaud, avec un diplomate russe marié. Et dans le livre, ce qui est étonnant, c'est qu'on s'arrêtait toujours à la porte de la chambre à coucher. Le parti pris de Daniel Arbid est l'inverse. C'est-à-dire que c'est un film très charnel, très passionnel, et donc qui trahit quelque part le livre tout en conservant l'essentiel. Et je trouve ce film très intéressant à l'ère MeToo, parce que si ça avait été mal fait, on pourrait juste croire que c'est le portrait d'une femme soumise à un homme. Et là, c'est le portrait d'une femme qui décide d'avoir cette relation-là. Et je trouve que Daniel Arbid, qui, depuis ses premiers films, a ce talent pour filmer les corps, le fait formidablement bien, que Laetitia Doche, dont le rôle principal, est étonnante. Et moi, c'est voilà, j'avais aimé le livre et j'ai vraiment adoré le film.
Fabrice Leclerc, Passion Simple.
Écoutez, moi j'ai vu le film, ça fait très longtemps. Je vais vous faire une petite confession, donc il faut que je me le remette dans l'esprit.
Ah bah il a bossé le gars avant de venir.
Non, c'est pas ça, mais je l'ai vu, ça fait longtemps. Quand même, je bosse toujours avant de venir, surtout avec vous, Mathieu. Non, écoutez, moi il me reste des images d'un film totalement... d'un film assez inabouti. Il y a de l'ambiance dans ce film. Il y a ces scènes charnelles ou ces scènes de relations sexuelles entre ce russe et cette jeune femme, nombreuses, me restent à l'esprit. J'ai des déambulations dans Paris. Il ne me reste pas trop grand-chose d'autre. Et je me souviens avoir pensé que c'était un film quand même assez surfait et un peu limité. Voilà, on est dans le cinéma d'auteur français qui se regarde un peu le nombril, qui se regarde filmer. On est dans les beaux quartiers, hein, vous en faites pas. Il n'y aura pas de violence. Voilà, ces portraits de trentenaires de femmes, on en a vu des dizaines et des dizaines et des dizaines. Voilà, c'est un beau film, mais qui manque d'originalité pour moi et qui se répète un peu dans cette petite notion et cette petite famille du cinéma d'auteur à la française.
Passion simple, voilà. De Daniel Arbid. Et on va terminer, messieurs, avec Berlin Alexanderplatz, long film de 3 heures, adapté là aussi d'un roman, celui d'Alfred Döblin, paru en 1929.
I was a refugee all of my life. I did what I have to do. Now I got a second chance.
This one isn't for you.
Not yet.
I feel good sign.
Et c'est une odyssée, hein, ce film, une odyssée de plus de 3 heures pendant laquelle on va suivre un immigré guinéen qui s'appelle Francis, qui a 30 ans, qui cherche à s'en sortir mais se retrouve impliqué dans des histoires de drogue et de criminalité. Tout ça se déroule dans le monde souterrain de Berlin, ce qui donne d'ailleurs parfois de très très belles images. Après, ça dure 3 heures, est-ce que ça les mérite, Fabrice Leclerc ?
Alors, moi je me demande pourquoi ils n'en ont pas fait une série.
Voilà, oui, c'est vrai.
Parce que on dirait assister à un feuilleton, c'est très intéressant. Ce Berlin, justement souterrain, est assez séduisant. Après, le personnage n'évolue jamais vraiment. Voilà, il va tomber petit à petit dans la criminalité. Pourquoi 3 heures ?
Thierry.
Je pose une question, Thierry, pourquoi 3 heures ?
Parce que 500 pages.
Vous avez 2 heures.
Parce que 500 pages de roman et parce que la série de 15h30 a eu lieu par Fassbinder en 80.
Ah, donc, voilà. Ah bah oui, mais alors là, si on parle de l'adaptation de Fassbinder, d'accord, moi je m'étais concentré sur le film.
Bah oui, mais c'est pour ça que c'est long. Non, mais il y a une série de 15h30, donc 3 heures, c'est finalement.
Finalement, il a coupé.
Non, moi j'ai plutôt été vraiment charmé par la réalisation et je comprends très bien que ce soit insupportable. C'est une orgie de couleurs et de sons dans tous les sens.
C'est pop. Hein.
Voilà, qui du coup prend le pas, je trouve, sur le récit, mais au moins on y va. C'est, voilà, c'est du c'est Moonlight de Barry Jenkins, puissance 1 milliard, ouais. On y va à fond. Donc c'est très clivant. Je pense que si au bout de 20 minutes vous n'êtes pas rentré dedans, ça n'arrivera plus après.
Sortez.
Mais si vous êtes rentré dedans dans les 20 minutes, il y a un voyage qui est proposé, il y a une ambition, le film va au moins jusqu'au bout de ça, formellement. C'est vrai que l'histoire est très ténue et qu'on devine à peu près tout ce qui va se passer, mais moi, je suis vraiment pris par ce truc très sensitif et qui fait que j'ai marché. Voilà.
Berlin, Alexanderplatz, on a aussi parlé de Passion Simple, de Sentimental et de Rouge. En tout cas, il y a une belle offre variée depuis mercredi dernier, donc vous n'avez pas d'excuse pour ne pas aller au cinéma, franchement. Vous pouvez trouver chaussures à votre pied ou film à votre vue. Messieurs, merci beaucoup Thierry Chaise, de première Fabrice Leclerc de Paris Match. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Clap qui sera consacré à la grande histoire des effets spéciaux à l'occasion de la sortie du film FL en salle. Clap, émission réalisée par Nicolas Baudin, préparée par Marjorie Adelson, que vous retrouvez évidemment en podcast. Quant à nous, rendez-vous samedi prochain 14h, 15h sur Europe 1. Europe 1.